Bonjour et bienvenue dans le magazine des lycéens, c'est l'hebdo des lycéens qui est présenté en direct chaque vendredi, chaque semaine avec aujourd'hui Laurine, Lise, Antoine, Justine, Stéphanie, Pierre, Audrey, Chanis qui sont en terminale ici donc au lycée Paul Scarron, Assiel Guillaume, nous sommes en direct. Aujourd'hui on va faire un petit tour du choix de l'actualité qui a été fait par ce groupe pour cette émission et vous allez voir que les choix ne sont pas forcément d'ailleurs ceux qui sont les plus courants dans les journaux d'information qu'on a pu voir lors de ces derniers jours qui ont été largement dominés par l'actualité politique. Vous allez d'ailleurs en avoir un premier avant-goût puisque Pierre nous a choisi une actu, on va dire... Un sujet vraiment en plus simple appareil.
Alors, jeudi, le tribunal fédéral suisse a rejeté l'appel d'un randonneur naturiste condamné à 100 francs suisses d'amende pour s'être promené nu sur un sentier régulièrement fréquenté. Un dimanche après-midi de 2009, l'idée lui était venue d'aller faire une balade nue dans le canton d'Appenzellrod, dans le nord-est de la Suisse. Après avoir traversé une aire de pique-nique où déjeunait une paisible famille avec plusieurs jeunes enfants, l'homme était ensuite passé devant un centre chrétien d'aide aux toxicomanes. Ce canton est connu pour son conservatisme, mais quoi qu'il en soit, ses sentiers sont prisés par les adeptes de la randonnée nue. Bien que la randonnée nue ne soit pas une pratique interdite en Suisse, le tribunal a refusé l'appel du dit randonneur, chaque canton ayant le droit de condamner l'indécence comme il l'entend.
Voilà donc un sujet, donc on le disait, pour le moins dépouillé. Donc, pourquoi tu nous parles de cette info qui est quand même, on va dire, une info très, très marginale, pour le moins,
oui, c'est sûr.
Par rapport à une actualité très, très dense, dramatique. Pourquoi ce sujet ?
Je sais pas, cette semaine, je ne me sentais pas la responsabilité d'assumer une info vraiment... vraiment importante et puis j'ai lu ça puis j'ai trouvé ça marrant alors je me suis dit
voilà c'est le côté voilà. Marrant ouais le naturisme ça t'inspire quoi comme pratique?
Ben je trouve que
d'abord comment ça te rhabiller
mais enfin non c'est aussi un sujet qui fait assez polémique parce que après tout pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se promener nu comme on l'entend?
Ouais, ça peut gêner qui éventuellement le fait que des gens choisissent de se promener nus comme ça.
Tous les conservateurs, les religieux aussi.
Peut-être. Ouais, tu crois que c'est uniquement à ce niveau-là, oui. Toi, tu croises quelqu'un de nu comme ça dans la rue ou en randonnant, ça te gêne pas du tout.
Tu t'auras pas une comprends la personne, non, enfin je ça me choquerait pas plus que ça.
Est-ce qu'éventuellement tu irais toi-même dans... écoutez bien la réponse des autres, c'est intéressant sans doute. Est-ce que tu irais toi-même par exemple dans un camp de naturistes l'été du genre de Montalivet ou Cap d'Agde ou histoire de pouvoir vraiment
offrir
ton corps complètement au beau rayon solaire.
J'ai jamais vraiment réfléchi, mais ce serait pas, ça me dérangerait pas de le faire.
Naturisme, ça te paraît naturel?
Ah oui, tout à fait, oui.
Ouais.
Après tout, on est tous fait pareil. Il y a aucune honte à avoir de.
Ah, on n'est pas tous fait exactement pareil. Hein,
non, pas tous.
Ça, faut quand même le dire. Oui. Ouais, mais ça te paraît pas choquant?
Non,
du
tout. Non.
D'accord. Par contre, tu penses que c'est mieux quand même qu'il y ait des lieux prévus pour.
Après. Non, je sais pas. Enfin, si peut-être il y a vraiment certaines personnes que ça dérange vraiment. Et ça vaut au moins les endroits qu'il faut éviter, quoi.
Donc c'est toujours pareil dans la société, y a soi et puis les valeurs qu'on peut souhaiter porter. Ouais, et puis il y a aussi la façon dont les autres les reçoivent. Et la vie en société, c'est finalement toujours le bon équilibre entre ces deux personnes. Audrey qui adore aussi les faits divers terribles.
Oui.
Va nous faire frémir.
Oui, alors lundi, dans la mi-journée, un homme âgé de 44 ans a été retrouvé mort dans son appartement à Besançon. Il a été tué de 90 coups de couteau, mais aucun n'a touché un organe vital. Cependant, la multitude de blessures a fait que l'homme s'est vidé de son sang, a expliqué un journaliste de la chaîne France 3. On ne sait toujours pas qui est l'auteur de ce crime.
À ton avis, c'est quoi? C'est un crime d'un sadique, d'un fou? Il y a un sens quelconque? Parce que combien tu as dit de coups de couteau?
90 coups.
90, ouais, c'est quand même pas mal ça.
C'est pas mal, ouais. Non, je sais pas. Peut-être une vengeance ou.
Ah bah, il en voulait vraiment beaucoup là.
Oui, vraiment là. C'était.
Est-ce que t'as pas l'impression que des fois, l'actualité comme ça, la réalité, dépasse un peu les fictions qu'on pourrait trouver dans des films?
Ouais. Oui, bah oui, je pense.
Est-ce que ça, dans un film, on y croirait?
Dans un film, oui, parce qu'il y a une histoire, là, on sait pas tout. Fin...
Ouais, parce que le film, au bout d'une heure et demie, on sait exactement tout ce qui s'est passé et le pourquoi, alors que là, c'est pas le cas, c'est ça que
non.
Tu veux dire?
Ouais, voilà. On sait pas qui a fait ça, on sait pas.
Bon, pourquoi est-ce que t'es intéressé comme ça par tous ces faits divers un peu glauques?
Je me demande comment on peut faire ça à quelqu'un, en fait. Enfin, même en voulant se venger, comment on peut être capable de tuer quelqu'un
donc,
comme ça, quoi.
Ce qui t'impressionne, c'est jusqu'où, finalement, certains êtres humains peuvent...
jusqu'où on peut aller.
Peuvent aller, des fois. Ouais. Et dire aussi, pourquoi pas, ça peut arriver à n'importe qui.
Oui, en plus.
Ouais, et c'est là que ça fait peur.
Oui.
Audrey, merci. Tu nous as parlé de sang. C'est Antoine qui va nous dire que justement, du côté du sang, les choses ne sont pas si simples que ça en termes de sécurité civile.
Les réserves de sang sont très fragiles, à tel point que la France va utiliser le plasma venu de l'étranger, issu de prélèvements rémunérés, puisque les donneurs se font de plus en plus rares. En 2009, on comptait 3 millions de donneurs contre 1,7 million en 2010. Il manquerait à ce jour 40 000 donneurs pour combler ce manque. Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don du sang. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet www.dondusang.net.
Est-ce que toi, tu donnes ton sang?
Je n'ai pas encore l'âge légal, mais je compte le faire plus tard.
D'accord. Est-ce que ça te paraît important de le faire, justement?
Pour aider les malades, oui, je pense que c'est important.
Ouais. Est-ce que tu as une explication sur le fait que... il y a moins de personnes qui donnent leur sang.
Déjà, on est dans une période où les maladies hivernales arrivent, donc on peut moins donner son sang. Et puis, c'est peut-être aussi la société individualiste. On se moque un peu des autres en ce moment.
C'est le mot donné, c'est pas le sang qui pose problème?
Aussi, il y a une affaire. Il y a une affaire de commerce derrière le don du sang, donc les gens se méfient.
Ouais, d'accord, oui. Donc, toi, en tout cas, tu encourages les auditeurs et auditrices à...
Ça reste quand même un acte humain, donc je pense qu'il faut.
Humain et citoyen en même temps, quoi.
Oui.
D'accord. Donc, voilà, pour cette question de nom du sang vu par Antoine. On va rester dans un sujet de santé avec Stéphanie, parce que il y a plein de produits qu'on nous dit qu'il ne faut pas consommer. Vous connaissez les campagnes sur les légumes, les sucres, tout ça, les produits gras. Et puis, il y a les édulcorants. Alors, Stéphanie, pourquoi est-ce que tu nous parles d'édulcorants aujourd'hui?
Eh bien, parce que la stavia, donc un édulcorant naturel, avait déjà été autorisé en Asie, en Amérique du Sud et aux États-Unis, en France aussi depuis 2 ans. Et lundi, la Commission européenne a donné son accord pour que l'ensemble des pays de l'Union européenne puissent l'autoriser, notamment donc dans les produits alimentaires comme les boissons, les yaourts ou autres confiseries sucrées. Et cet édulcorant naturel pourrait à terme remplacer l'aspartame, qui est un édulcorant artificiel, qui avait fait l'objet d'études et qui montrait d'ailleurs certains aspects cancérigènes.
Bon, alors ça c'est un sujet qu'on avait vu aborder l'année dernière lors d'une émission, on était allé à Paris avec Morandini, où il mettait justement en cause l'aspartame. Toi-même, qu'est-ce que tu en penses de ces histoires de produits de substitution?
Dans ce cas-là, je trouve ça un peu étonnant parce que, en sachant que la stavia, c'est naturel, donc ça vient d'une plante qui est, je crois, cultivée en Amérique du Sud.
Ouais, c'est ça.
Et à l'époque, j'ai vu que les Indiens l'utilisaient déjà pour sucrer leur thé, ce genre de choses. Donc je trouve ça un peu étonnant de savoir que, voilà, à l'époque, c'était déjà utilisé et puis qu'on remplaçait par des édulcorants artificiels au lieu d'utiliser quelque chose de naturel, en fait.
On va repartir sur un autre sujet de santé avec Laurine. Laurine, on parle de sida.
Oui, parce qu'un nouveau système de dépistage se voit apparaître. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Les préventions, elles sont certes moins présentes. La maladie, elle fait peut-être moins peur, mais elle est toujours là. Donc, ce nouveau dépistage, il porte le nom de TROD, qui signifie test rapide d'orientation diagnostique. Et donc, il s'agit de faire une piqûre au doigt permettant d'avoir un résultat, une analyse rapide et immédiate.
Ça te paraît quelque chose d'utile, d'important, de capital ?
Je trouve ça important, oui, parce que c'est toujours bon d'avoir de nouvelles solutions pour... pour chercher d'autres moyens. Pour, pourquoi pas, guérir après cette maladie, parce que ça reste une maladie inguérissable. Et donc, avoir toujours des progrès dans ça, c'est intéressant.
Est-ce qu'on a une idée sur le coût de ce produit, savoir si ça va être une solution plus abordable pour tout le monde pour faire du dépistage ? Est-ce qu'on a ces éléments-là ?
Non, j'ai pas. D'accord, non. J'ai pas trouvé.
Non, parce que c'est vrai que parmi les enjeux, c'est effectivement que tous ces... produits, ces nouveaux produits ou ces nouvelles démarches médicales puissent être accessibles dans les régions du monde où le sida est le plus fort, et on pense principalement donc à l'Afrique et principalement donc à l'Afrique centrale. Pour le 1er décembre, donc, est-ce que tu avais déjà participé à des actions ? Est-ce que tu comptes y participer cette année ?
Bah, au lycée, à chaque fois, il y a des ventes d'objets et l'argent récolté est transmis justement à une association. Donc oui, à chaque fois, j'achète 2-3 choses. Et vu qu'il faut porter du rouge, et quand j'en ai dans ma garde-robe, j'en mets.
Est-ce que le sida, c'est quelque chose qui fait toujours peur à votre génération, comme ça faisait très très peur dans les années, on va dire, 80-90?
Ça peut dépendre des personnes, parce que on n'est plus autant informé qu'on l'était avant. Enfin, je me souviens, lorsque j'étais plus petite, on avait des campagnes. Enfin, l'infirmière venait dans les classes, et là, on en entend moins parler.
Ça se fait plus, ça.
Oui.
T'as l'impression que ça se banalise un petit peu, le sida, qu'on fait comme si, finalement, ça se réglait tout doucement.
Je pense. J'ai l'impression que c'est qu'ils considèrent ça une maladie comme les autres. Enfin, on n'est plus trop... On n'a plus trop de renseignements sur ça.
Voilà, oui, il y a moins de mobilisation, oui. En tout cas, par l'information. Oui. C'est pour ça que ça pouvait être intéressant aussi, sur Fréquence SIA, donc aujourd'hui, que tu nous en parles, Laurine. L'actualité chaude, et on vient dans des choses un peu plus politiques, même si le sida est évidemment un très fort enjeu politique, avec Lise, des nouvelles très, très, très inquiétantes.
Oui, on va parler aujourd'hui du groupe PSA Peugeot Citroën et de leur suppression d'emplois. Donc le 26 octobre dernier, la direction de PSA Peugeot Citroën avait annoncé un plan d'économie de 800 millions d'euros. Et il y a donc en tout aujourd'hui 6250 postes qui vont être supprimés, comprenant 3750 postes en Europe et 2500 prestataires extérieurs qui ne verront pas leur contrat être renouvelé. Donc ça fait beaucoup de mouvements en France. Donc depuis mardi, la direction du groupe tente de rassurer. Il n'y aura pas de licenciement ni de plan de départ volontaire. Leur calcul est simple. Sur 3750 postes supprimés, 2500 salariés non concernés par les départs en retraite seront reclassés après formation pour remplacer les 2500 prestataires. Néanmoins, la CGT n'est pas d'accord en disant que le groupe a été capable de racheter 200 millions d'euros d'actions pour... cet été pour rémunérer les actionnaires. C'est Jean-Luc Mélenchon, candidat du Parti communiste et du Parti de gauche, qui souligne un aspect important. Moody's, l'agence de notation, menaçait de baisser la note du groupe PSA. Ce serait peut-être une des raisons pour lesquelles le groupe supprime tous ses postes.
En même temps, je crois qu'on annonçait que l'automobile allemande, par exemple, ne se portait pas trop mal. Est-ce que tu as le sentiment que, globalement, l'industrie automobile est menacée de par de nouvelles façons de vivre, peut-être ? Ou est-ce que c'est typiquement l'automobile française qui est en danger ?
Je
Question difficile.
Que,
hein.
Enfin, moi, à mon avis, c'est peut-être en ce moment plus l'automobile française avec les annonces concernant le triple A qui serait peut-être enlevé par l'agence de notation, tandis que l'Allemagne se porte plutôt bien. Donc pour le moment, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de soucis à se faire.
Si toi, tu avais acheté un véhicule, est-ce que tu l'achèterais sur le fait que ce soit un véhicule de marque française ou sur un autre choix? Est-ce que ce serait déterminant?
Oui, je pense que je privilégie largement les marques françaises, c'est sûr. Par rapport à la délocalisation, enfin, des choses comme ça, par esprit patriotiste un petit peu aussi.
Oui, on comprend bien, oui. Est-ce que tu comprends l'inquiétude des ouvriers de chez PSA?
Bah oui, parce que pour le moment, ils disent que sur les 3750, il y en aura 2500 qui sont reclassés, mais c'est pas forcé que les autres des 3750 seront en départ en retraite. Il y en aura forcément qui seront quand même licenciés complètement.
Oui, donc c'est dans tous les cas une nouvelle très inquiétante et qui ne révèle pas une excellente santé de l'économie française dans un contexte de crise bien sûr aussi mondiale. On a eu beaucoup d'inquiétudes, Justine, sur la question de savoir comment les Restos du Cœur, par exemple, allaient passer cet hiver. Est-ce qu'on a du nouveau du côté de cette aide alimentaire?
Oui, après de longues négociations assez tumultueuses d'ailleurs, le soutien financier européen apporté aux associations caritatives, donc telles que les Restos du Cœur, sera finalement maintenu jusqu'en 2014. En effet, le programme européen d'aide alimentaire aux personnes les plus démunies devait initialement prendre fin progressivement ces deux prochaines années, sous la pression de différents pays européens comme l'Allemagne ou la Suède. Mais la France a réussi à passer un accord in extremis lundi pour que cette aide, dont près de 18 millions de personnes quand même profitent chaque année, soit active jusqu'au 1er janvier 2014. Mais néanmoins, à partir de cette date-là, toutes les politiques sociales en faveur de l'alimentaire devront disparaître. Cette décision vise à réduire les dépenses de l'Union européenne, qui est, comme tout le monde le sait, en pleine crise économique.
Ouais, ok. Qu'est-ce qui te paraît le plus choquant dans le fait qu'on se soit même posé la question par rapport à cette aide alimentaire? Est-ce qu'il s'agit d'un problème économique? Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'urgence humanitaire?
Non, moi, je trouve pas ça logique du tout qu'on prive les personnes les plus démunies. Enfin, c'est pas elles qui vont apporter le plus de fonds finalement. On peut aller voir ailleurs, on peut trouver ailleurs, je pense.
Donc on commence déjà par s'occuper de ceux qui ont les plus grands besoins, hein, qui sont les plus démunis. Justement, ça fait partie des choses qui font remuer pas mal la société dans pas mal de pays. Cette nuit, je crois que c'était du côté du pont de Brooklyn à New York, qu'il y a eu un certain nombre d'événements autour de gens qu'on appelle les indignés. Chanice.
Donc oui, donc depuis le 17 septembre, près de 200 manifestants du mouvement Occupy Wall Street campaient dans le square Zuccotti, près de la bourse. Mardi matin, environ 1000 policiers les ont évacués sur ordre du maire indépendant de New York, Michael Bloomberg. Il se justifie en affirmant que les conditions d'hygiène et de santé étaient devenues intolérables. Lors de cette évacuation, plus de 150 personnes ont été arrêtées. Mais selon le maire, les manifestants seront autorisés à revenir une fois le parc nettoyé, mais sans avoir le droit de planter leur tente, d'utiliser des sacs de couchage ou des matelas. Donc ils ne devront se battre que grâce à la force de leurs arguments et surtout réussir à vivre dehors dans le froid avec pour seul soutien leur détermination.
Est-ce qu'on peut donc associer ce mouvement-là aux indignés d'Espagne ou d'autres pays?
Je pense que oui, on peut associer tous ces mouvements. Oui, on peut tous les associer.
Bon, on va en parler un petit peu avec tout le monde là aussi de cette question donc des indignés. C'est qui les indignés? C'est qui? C'est quoi? C'est pourquoi?
Les indignés, ce sont des personnes qui ne tolèrent pas les décisions prises par les dirigeants. Et ils font entendre leur voix en manifestant et en empêchant un peu les gens d'être tranquilles pour faire entendre et faire comprendre ce pourquoi ils se battent.
Est-ce que tu vois une différence entre ces manifestations des mouvements des indignés et puis les grandes manifestations syndicales qu'on a par exemple chez nous?
Nos manifestations syndicales, elles sont beaucoup plus courtes parce que là on se rend compte que depuis le mois de septembre quand même ils y sont.
Donc, et puis ils sont énormément, et puis ils occupent vraiment un lieu spécifique, et c'est pas, ils vont pas marcher dans la ville et des choses comme ça.
Le mot indigné, il vient tout bien évidemment du livre aussi de Stéphane Hessel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre de Stéphane Hessel, Pierre?
J'en ai lu quelques extraits.
Sachant qu'il ne faisait pas beaucoup de pages. Mais vas-y Pierre, oui, alors qu'est-ce que tu as trouvé dedans?
Bien
dans le micro Pierre, oui.
Il dénonce vraiment beaucoup de choses. Il s'attaque notamment au principal pays qui est responsable des plus grandes inégalités en fait, qu'il y a sur Terre, donc les États-Unis. Et j'ai lu aussi qu'il avait écrit quelques sujets sur... La Palestine et Israël. Et il faut rappeler que Stéphane Hessel, il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il est à garder tout cet héritage de la résistance.
Et puis on peut rappeler aussi au passage que Stéphane Hessel était un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Oui,
je crois que c'est le dernier qui est encore vivant actuellement, et il est toujours d'une fraîcheur et d'un pouvoir de contestation assez exceptionnel. Qu'est-ce qui vous indigne, vous, dans la société Lise, par exemple, allez, on va faire un petit tour.
Personnellement, ce qui m'indigne en ce moment, mais je dis ça à titre personnel, c'est que ce soit des agences de notation internationales qui décident de la politique entière d'un pays. Voilà. En ce moment, c'est ça.
Justine ?
Moi, c'est assez banal, malheureusement. Je veux dire, c'est toutes les histoires de racisme, homophobie qu'on peut voir encore, mais aussi, pas forcément en ce moment parce que ça date un peu, mais la façon dont... d'ailleurs, c'est ce qui est revendiqué à Wall Street, c'est 1% de la population mondiale qui gère les plus grandes finances du monde, et 99% d'autres qui sont des travailleurs, qui sont des gens normaux, quoi.
Et là-dessus, il y a de quoi indigner ?
Oui.
Largement, oui.
Largement, oui.
Du côté de notre côté du studio, Laurine, par exemple, toi, qu'est-ce qui t'indigne ?
La même chose que Justine.
Ah, tu bottes pas en touche.
Non, mais c'était mon idée de départ, donc... tout ce qui est au niveau du racisme, tout ça.
Ouais.
Oui.
Antoine, toi, de ton côté ?
Comme on l'a déjà dit, toutes les discriminations.
Ouais. Quelqu'un s'exprime aussi sur cette question, Stéphanie ? Tu veux nous dire, toi, ce qui t'indigne, comme ça, tout doucement, et puis on demandera à Audrey aussi, après, ce qui l'indigne.
C'est une très bonne question. Non, c'est vrai, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, quoi, la discrimination et tout, tout ce qui est économique, politique, enfin, il y a plein de choses, hein, si on y réfléchit, après, donc... À un sujet précis, je ne sais pas, ça serait trop long pour réfléchir. Mais...
Je parle en pensant en même temps, on va y arriver.
Voilà, exactement.
Audrey, toi, qu'est-ce qui t'indigne ? Qu'est-ce qui t'énerve ? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans la vie en général ?
Moi, tout m'énerve, donc si je commence à...
Donc là, par exemple, quand je te pose la question, je t'énerve. Mais je ne t'indigne pas, je ne t'indigne pas pour autant.
Non, mais il y a plein de choses qui m'énervent. Là, tout de suite, sur le coup, je peux pas dire parce qu'il y en a tellement. Mais
ouais, c'est-à-dire, à la limite, il y a un moment, on sait plus trop finalement.
On sait plus trop ce qui nous énerve tellement il y a de choses qui nous énervent.
Ce qui peut indigner. Chanice, ouais. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'indigne le plus dans le monde ?
Dans les faits d'actualité récents, c'est vrai que, comme Lise en a parlé, les suppressions d'emplois de masse. Et de se dire qu'ils ne seront peut-être pas tous réhabilités à un autre poste, je trouve ça, c'est pas juste pour les autres qui n'ont pas demandé.
Que des gens aient bossé pendant des années, qu'un seul coup on les jette comme ça, comme des Kleenex, c'est ça un peu l'idée ?
Ouais.
Ouais. Ok, alors on va en rester là parce qu'on arrive tout près du terme de cette émission. Pierre voulait ajouter quelque chose.
Oui, je voulais dire que...
Tu as raison de t'indigner que je ne te donne pas la parole.
ce qui m'indigne principalement, c'est que le système dans lequel on vit existe depuis le 19e siècle, mais qu'il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas toujours efficace, et pourtant il n'a jamais été remis en cause. Enfin, surtout, il y a quelques personnes qui ont essayé d'apporter d'autres alternatives. Mais on vit encore dedans et...
Donc on le voit à travers ce que vous dites, il y a des petits faits qui indignent, il y a les relations entre les gens lorsqu'elles ne sont pas saines qui vous indignent. Et puis comme vient de le dire Pierre, il y a tout un système qui parfois peut indigner parce qu'il crée justement toutes les bonnes raisons de s'indigner sur des choses qui paraissent pas justes. C'est l'injustice en général, on peut le dire, qui indigne d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est sur ces remarques que nous allons boucler cet hebdo des lycéens d'aujourd'hui avec Laurine, Lise, Antoine, Justine, Stéphanie, Pierre, Audrey, Chanis. Nous étions en direct depuis la cité scolaire Paul Scarron à Ciel-Guillaume, exemple de terminale sur Fréquencier sur le 97.9. Bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.